Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme que beaucoup connaissent et reconnaissent comme un maître, mais dont rares sont ceux qui ont entendu l'histoire entière. On a des morceaux, mais on a rarement l'histoire en entier. Le Rav Ouri Amos Cherki est né en 1959 dans l'Algérie juive, d'un côté la lignée séfarade d'Alger et son grand-père Ezer Cherki comme figure du sionisme algérien, de l'autre la famille Steg venue de Tchécoslovaquie et un grand-père revenu d'Auschwitz qui n'en parlait jamais. De l'exil d'Alger à l'Alia à 13 ans, des bancs de Merkaz Arav aux côtés du Rav Zihuda Kouk et de Manitou, jusqu'à devenir l'un des grands enseignants du judaïsme francophone et israélien, et la voix d'un judaïste tourné vers toute l'humanité. Ensuite, c'est un parcours traversé par le déracinement, par l'étude, par une mission immense et par aussi un drame. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Torah de manière abstraite. On va comprendre comment un homme est arrivé à l'art, à Vouru, à Amos Cherki. Merci d'être avec nous au nouveau studio d'Oroz et Kedim, en plein Jérusalem. Shalom Arav.
Shalom, Mazal Tov pour votre nouveau studio. Raconter l'histoire de ma vie est en fait quelque chose d'extrêmement décevant. Je pense que c'est une banalité. J'ai une vie relativement banale. Hein.
Laissons les téléspectateurs décider, Arav.
D'accord, d'accord. Mais j'ai le droit d'avoir une opinion moi aussi. D'accord. Et en tout cas, j'ai compris que, étant donné que un certain nombre important de personnes écoutent mes enseignements, ils sont intéressés à connaître un peu mon histoire. Alors, vous savez que chez Manitou, par exemple, il y avait un lien direct entre son histoire personnelle, l'évolution du peuple juif et sa Torah. C'est-à-dire, il mettait vraiment en place les différentes étapes de sa vie avec les différentes étapes du peuple d'Israël. Dans mon cas personnel, je pense que c'est une histoire, disons, relativement banale. Mais enfin, je suis prêt à répondre à vos questions.
Eh ben, voyons ça, parce que, bon, je lance les questions que j'ai pas prévues, mais c'est comme ça qu'on travaille. Banal, peut-être dans le départ ou une chose, mais vous venez d'une famille qui n'est pas banale. Est-ce qu'on peut le dire ça aussi? Est-ce qu'on peut dire que vous avez des projets qui sont pas banaux non plus?
Exactement.
Bon, bah, mis d'un bout à l'autre, rien n'est banal. Bref, vous êtes en Algérie en 1959.
Oui.
À 2 ans, votre famille arrive en France. C'est quoi votre famille, votre maison?
Eh bien, notre famille, d'abord, nous avons atterri à Paris, puis très rapidement à Boulogne, Billancourt. Je me rappelle encore dans mon enfance avoir eu un relent d'accent pied noir. J'achetais du lait au lieu du lait, d'accord? Mais bon, c'est très rapidement, ça s'était estompé. Bon, j'ai grandi dans une société française. À partir d'un certain âge, j'ai demandé à mes parents, ils me l'ont proposé, de passer dans une école juive, ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai grandi à l'école Ariel, fondée par Arlette Foldes, qui était une éducatrice de très haut niveau. Il était prévu que je passe à l'école Maïmonides, ce qui ne s'est pas fait d'ailleurs, puisque nous avons fait notre alia. Un souvenir d'enfance qui peut intéresser les personnes, c'est lorsque j'ai reçu l'afikoman lors de la soirée du Seder. Alors, on m'a demandé, bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bien, je veux qu'on monte en Israël. Alors, mes parents m'ont répondu, tu sais, on prépare l'aliyah, mais c'est un peu difficile, demande autre chose. J'ai dit, bon, dans ce cas-là, un Sefer Torah. On dit, un Sefer Torah, tu sais, ça coûte très cher, on n'a pas l'argent. Alors, je me suis replié sur une Megillat Esther, un rouleau d'Esther, que je possède jusqu'à ce jour. C'est là-dedans que je lis la Megillah chaque année. Et puis, nous avons fait quand même un peu de tourisme en Israël. 2 fois, nous sommes venus en Israël en vacances, quand j'avais l'âge de 11 ans et l'âge de 12 ans. C'est lors de ma première visite à l'âge de 11 ans que j'ai rencontré Manitou, qui était un ami de la famille. Et à l'âge de 13 ans, nous avons finalement fait notre aliyah. Point intéressant, c'est quand on fait son aliyah vers l'âge de 13 ans, 12-13 ans, on risque très rapidement d'oublier la langue que l'on avait dans son enfance. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je suis en train d'oublier le français. Mais je pense que j'en aurai besoin pour le peuple juif un jour. Donc j'ai fait un effort de lire de la littérature en français, ne serait-ce que pour ne pas oublier la langue. Et si vous voyez, souvent, ma pensée intérieure, disons, la langue de ma vie intérieure, c'est l'hébreu.
Parce que vous venez d'une famille qui a une conscience collective, vous venez d'une famille qui a un rôle collectif quand même.
Absolument, c'est-à-dire aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. Du côté de mon père, en fait, nous avons été une des familles les plus influentes dans l'Algérie des dernières générations. Mon grand-père était celui qui a fondé l'organisation sioniste d'Algérie et d'Afrique du Nord,
Eliezer Cherki.
Eliezer Cherki. Oui.
Eliezer.
Eliezer, c'est un raccourci de Eliezer en vérité. Mon grand-père était de la ville de Médéa, qui était une ville où la conscience juive était très forte. La grand-mère de mon grand-père était elle-même parlait l'hébreu. Elle étudiait la Guémara. Son père était un kabbaliste, Rabbi Yehoshua Kadouche. Et donc, il y avait là-bas une sorte de pépinière dans laquelle les gens grandissaient avec une conscience juive très forte. Maintenant, ce qui s'est passé, quand les Français sont arrivés et ont imposé l'éducation nationale, alors ça n'a pas du tout fermé les Talmud et Torah. Tout simplement, les heures d'études des enfants à Médéa étaient doubles. Ils allaient à l'école et ils avaient avant et après les cours de Torah.
Talmud Torah.
Oui. Et bon, ce n'est que plus tard que ma famille est passée à Alger, la ville, la capitale. Alors, c'est une ville cosmopolite. Et c'est là que mon grand-père, qui faisait des affaires à l'époque, a commencé à s'occuper des Juifs. Alors, ça, il y a eu plusieurs stades. Tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, lors du gouvernement de Vichy en Afrique du Nord, lorsque les Juifs ont été évincés, pour la plupart, des écoles. C'est-à-dire qu'il y avait un numerus clausus extrêmement restreint, mais la plupart des enfants juifs devaient quitter l'école. Ce qui a été une occasion en or de les judaïser. Parce que l'assimilation, quand même, au niveau culturel, au moins en Algérie, était très forte. Rappelez-vous que l'Algérie n'était pas une colonie, elle était la France. Et c'est alors que mon grand-père et mon père ont fondé ensemble tout un réseau d'écoles juives. Ce qui a permis, grâce à cela, de rejudaïser toute une génération qui avait oublié ses sources. Et d'ailleurs, dans une des écoles, c'est à Oran, Albert Camus a enseigné.
Ah, ok.
Oui. Et puis après la guerre, il y a eu ce qu'on appelait la Aliyah Bet, la Aliyah illégale des délégués de la Palestine de l'époque, Yanni Avidov et Ephraim Friedman, sont venus secrètement à Alger. Et c'était leur relation directe était avec mon grand-père, qui d'ailleurs finançait une très grande partie de leurs activités, et qui amenait des Juifs du Maroc, passant par l'Algérie, pour aller en Eretz Israël. Mais finalement arrivent des centaines, des milliers de Juifs du Maroc, et personne ne s'en occupe. Et c'est alors là que mon grand-père a quitté toutes ses activités, et pendant 6 mois, il a fondé des camps pour recevoir ces gens-là et les alimenter. D'accord ? Et en fait, il a toujours été... Il y a un livre de Yanni Avidov, justement, qui s'appelle « Netivim Ne'elamim », dans lequel il raconte justement l'atmosphère dans la maison de mon grand-père.
Parce qu'il y a des histoires autour de votre grand-père, notamment un soir de Shabbat, chez vous à Alger, où des hommes se présentent comme des chercheurs français.
Oui, c'est ça, c'est exactement. Ils font semblant, mais très rapidement, ils ont compris que d'abord, mon grand-père n'était pas idiot. Il leur a tout de suite parlé en hébreu. Ils ont compris qu'avec lui, ça marcherait. Maintenant, de l'autre côté, du côté de ma mère, nous sommes également d'une famille assez prestigieuse. Également, nous descendons du Taz, le rabbi David Halevi, un des grands maîtres de la halakha. De là, ça remonte à Rashi. Et mon grand-père a été déporté à Auschwitz. Ses parents, d'ailleurs, ont disparu là-bas. Il est revenu. Il est revenu. Donc, il avait son numéro. Il avait son numéro. Quand j'étais enfant, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que ça. Il m'a dit, ce sont les Allemands qui me l'ont fait. Ils étaient très méchants. Et tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils étaient méchants de lui avoir fait ce numéro. D'accord. Mais la Shoah restait estompée, on n'en parlait pas, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont traversé la Shoah.
Mais cette alia, première alia entre guillemets de l'Algérie vers la France, vous l'avez faite en famille avec votre grand-père ou c'est que
Non, ça s'est fait avec mon grand-père. D'ailleurs, ça n'a pas été d'une seule vague. Par exemple, je me rappelle très bien que mon père était reparti en Algérie après l'indépendance pour ramener des objets qui étaient restés. Une anecdote absolument incroyable, mon père ne pouvait pas mentir. Alors, donc le douanier avec sa mitraillette, Felaga, etc., il dit que vous avez dans ce sac. Il dit, mais de l'or. Bon, ça va, passez.
Votre père ne pouvait pas mentir ?
Non, il ne pouvait pas mentir, il disait toujours ce qu'il pensait, ce qui parfois d'ailleurs choquait certaines personnes. Mais...
Et vous avez récupéré un peu ça ou
Oui, bien sûr, je ne me gêne.
J'entends Roland de côté, ouais. J'ai une histoire pour finir avec votre grand-père et votre père. Après, on va arriver à vous. Un soir du CDR à Alger, une cinquantaine de soldats américains, soldats français, anglais sont assis à la table de votre père.
Oui.
Si vous pouvez nous raconter un peu cette histoire.
D'abord, je ne m'en rappelle absolument pas, étant
exilé. Non, mais on vous a raconté.
On l'a, évidemment. C'est-à-dire, il y avait parmi les forces anglo-canadiennes qui s'étaient emparées de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, il y a eu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en plein milieu de la guerre. D'ailleurs, les Juifs ont beaucoup aidé à cela. Et donc, il y avait beaucoup de soldats juifs. Il fallait bien qu'ils passent quelque part et qu'ils se fassent recevoir le Shabbat, le soir du Seder, etc. Donc, ils venaient naturellement chez mon grand-père. D'ailleurs, toute personne un peu importante qui passait par Alger automatiquement se rendait chez mon grand-père, qui était, si vous voulez, le grand...
Manitou.
Le grand Manitou du coin, oui.
J'utilisais. Rav, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est un journal que j'ai retrouvé, des archives d'un journal que j'ai retrouvé, qui s'appelle Information juive.
Information juive, créé par mon père et mon oncle.
Exactement.
Évidemment.
L'été où votre famille quittait Alger, il y a eu cet article de Spinoza, non, de Levinas, pardon, qui a été écrit. Et en fait, dans cet article-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que votre père, entre lui, qui était forcément d'accord avec ce qui était écrit là-bas, dit « Heidegger, Gagarine et nous, ce qui compte le plus dans l'exploit de Gagarine, c'est d'avoir quitté le lieu. Le judaïsme a toujours été libre à l'égard des lieux. » Emmanuel Levinas. J'imagine que la pensée a évolué un petit peu depuis, non ?
Je ne pense pas que mon père était d'accord avec ça. Il connaissait bien Levinas, il connaissait très bien Manitou également et André Neher. C'était des amis. Mon père avait fondé à Alger un centre d'études juives avec des conférences. Il a invité Albert Einstein, il a invité Shai Agnon, etc. Et Emmanuel Levinas était une grande figure de la philosophie juive en France, de la philosophie en général en France. Et donc, il était normal qu'il écrive dans l'information juive, ce qui a donné d'ailleurs le livre appelé « Difficile liberté ».
Oui.
Et comme mon père était un homme véritablement libre, il donnait la parole à tout le monde. Et il était d'ailleurs sioniste depuis les débuts, bien avant Manitou d'ailleurs, qui venait souvent chez lui à Alger en tant qu'adolescent, et qui disait à l'époque, le judaïsme sera scout ou ne sera pas. Et mon père disait non, il sera sioniste. D'accord.
Mais alors pourquoi être monté en France et pas directement en Israël ?
Tout simplement, il faut bien comprendre, l'exode des Juifs d'Algérie n'était pas une expulsion. C'était un transfert dans le même territoire. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, vous avez des émeutes en Charente, alors les gens sont évacués vers l'Alsace. Mais c'est dans le même pays. Ils n'avaient pas du tout le sentiment d'arriver dans une terre étrangère. Pour eux, la France, c'était leur pays, c'était évident. Et c'est donc une petite minorité qui a fait son alia à l'époque, mais toujours, on préparait l'alia dans notre famille.
Vous dites avoir hérité du silence de votre grand-père d'Auschwitz. J'ai eu du mal à comprendre cette phrase.
J'ai hérité de son silence. Je vois pas ce que j'ai pu dire. J'ai
une interview, vous avez dit, dans un podcast sur votre site internet.
Oui, bon, je peux dire n'importe quoi.
Oui, cherki.org. C'est intéressé. Bon. Non, je sais pas. Non, c'est pas.
Non, je me rappelle pas tellement de ça. Non. J'ai été impressionné par ce silence, effectivement. Ça s'est imprimé dans ma conscience. Effectivement, quand je pense à la Shoah, il est très difficile pour moi. J'y pense tous les jours. Mais il m'est très difficile pour moi d'en parler.
Vous pensez tous les jours à la Shoah ?
Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que nous avons traversé ce traumatisme au niveau national, au niveau de toute l'humanité d'ailleurs. Nous ne sommes pas ce que nous étions avant la Shoah. Nous sommes autre chose. Et donc, on ne peut pas oublier vers quoi l'humanité peut s'abaisser. Et surtout que c'est nous qui sommes au centre de cela.
Et vous y pensez parce que vous avez peur que ça revienne ?
Non, je ne pense pas que ça risque de revenir, étant donné qu'il y a l'État d'Israël. Mais il faut être bien conscient du fait que des questions, même d'ordre théologique, c'est banal, mais enfin, des questions théologiques se posent. La relation que nous avons envers l'histoire et envers celui qui gouverne l'histoire, Baruch Shemo, ne peut pas être pensée de la même manière que c'était pensé dans les ghettos, dans les mélars avant.
Est-ce que vous vous sentiez français à un moment donné, avant votre alia ?
Non, jamais je ne me suis senti français. J'ai toujours intégré une grande partie de la culture française, évidemment, qui est très riche, très enrichissante. Mes attaches ont toujours été liées à Eretz Israël, même quand je ne connaissais pas encore l'endroit.
Parce que vous aimez citer Astérix Obélix, vous aimez citer...
Mais attention, Astérix Obélix, c'est la littérature juive. Goscinny était juif et son modèle, c'était Bar Kokhba, n'oubliez pas.
À quel moment, alors, la Torah a été votre choix et pas un choix familial? À quel moment vous avez dit, moi, je veux un Sefer Torah?
J'avais 11 ans.
Oui, justement, c'était ça la question.
Oui. Oui.
C'est fou à 11 ans. Je vois les enfants de 11 ans aujourd'hui. Bon,
Disons que je me suis toujours dit que il faut s'occuper du peuple d'Israël. Toujours j'ai eu ce sentiment. J'ai eu le sentiment qu'il était important de réfléchir aux fondements de la Torah et de les transmettre. Mais non, il n'était pas du tout évident pour moi que ça serait ma profession. Ce n'est que lorsque j'ai passé une nuit dans ma chambre au Merkaz Arav, à la yeshiva du Merkaz Arav, et il s'est trouvé que mes amis de chambre, chacun était parti ailleurs, donc j'étais seul. Et alors, des amis m'ont dit, voilà, je voudrais te parler. Et il y en a eu toute une liste comme ça, les uns après les autres, qui sont venus me demander des conseils. C'est passé la nuit comme ça. Alors je lui ai dit, tiens, c'est ça que je vais faire.
Des conseils de vie ou des conseils de Torah?
Les deux, les deux. J'ai eu le sentiment que les gens étaient, disons, captés par ma manière d'exprimer les choses. Tout simplement, il n'y avait rien de spécial, simplement, j'ai l'esprit libre.
Comme votre père.
Comme mon père, exactement.
Et comme votre grand-père, si j'entends bien,
Exactement,
dans la
exactement.
façon
Oui,
d'être
oui, oui.
familial.
Voilà. Et donc, l'esprit libre, c'est ça, je pense, qui parfois a pu impressionner certaines personnes, parce que on vit dans la société israélienne en particulier, dans une société extrêmement compartimentée. Et dans chaque compartiment, il y a des règles. On ne peut pas penser en dehors. C'est pas par agressivité, mais c'est comme ça. Le fait est là. Les gens se protègent. Et quand quelqu'un réfléchit de par lui-même, alors c'est menaçant. D'un autre côté, c'est attirant.
Vous parlez énormément de Manitou, que vous avez beaucoup appris chez lui, mais vous parlez pas si souvent de ça, du Rav Tzvi Yehuda, auquel vous étiez dans sa classe, quoi. Vous étudiez avec le Rav Tzvi Yehuda?
J'ai étudié chez le Rav Tzvi Yehuda, effectivement, dans des cours, j'ai eu des entretiens avec lui. Le Rav Tzvi Yehuda est un personnage fascinant parce qu'il avait, je pense que ce n'est pas toujours mis en évidence, mais il avait un amour illimité. Il aimait. Il aimait tout. Il aimait tout Israël, il aimait le monde entier. Il avait des horizons extrêmement larges, bien que dans sa yeshiva, les choses étaient très précises. Mais il n'y avait pas, par exemple, l'institution qu'on trouve dans les autres yeshivot, le mashgiach. Le mashgiach, c'est celui qui va voir que les élèves se lèvent, que les élèves ont étudié, etc., qui disent pas de lashon hara. Non, le Rav Tzvi Yehuda voulait une atmosphère de totale liberté. C'est pour ça qu'il fut un temps où, au Merkaz Arav, vous pouviez rencontrer celui qui a été plus tard le Rav Menachem Froman, faisant de la méditation avec la tête en bas, les pieds en l'air. C'est-à-dire, il y avait un sentiment que tout était ouvert. Et ça, c'est très, très grand. D'un autre côté, il y avait également une puissance de sainteté qui émanait de la personne, qui était très impressionnante.
Alors, j'ai un sujet pour plus tard par rapport à Brit Olam et au Bnei Noir, etc. Mais est-ce que cet amour-là de l'universel, du monde entier, vous l'avez pris chez lui?
Je l'ai appris chez le Rav Eliyahu Ben Amozeg.
Ok.
Dont j'ai lu le livre Israël et l'humanité. Je crois avoir eu à l'époque l'âge de 10 ans. Et je me suis toujours dit, tiens, il y a donc un message universel du judaïsme.
Moi, j'ai un problème dans tout ce que vous me dites, Larav.
Oui,
C'est
pourquoi?
que moi, à 10 ans, je
Oui?
voulais des sucreries. Je voulais rien d'autre. Je n'ai même pas de souvenir de à quoi j'ai été il y a 10 ans. Et vous me parlez de. À 11 ans, vous voulez un
Mais
Sefer Torah à 10 ans. Il y a quelque chose quand même.
est-ce qu'il est resté quelques sucreries comme ça pour moi?
Vous voyez,
Ouais.
vous voyez que non.
Oui.
Non, vous avez quand même un de base, une naissance, une volonté de faire des grandes choses qui n'est pas banale, Larav.
Oui, j'ai toujours pensé que c'était banal, mais en tout cas, ça n'a aucune importance. Le fait est là, c'est que ces choses-là m'intéressent, que je m'intéresse au peuple d'Israël, je m'intéresse à l'humanité également. D'ailleurs, nous projetons de faire le congrès international du...
Mais
Oui,
on va en parler,
on va
parce
en
qu'on va en
parler
parler
tout
longuement du noachisme, etc., parce que c'est
Bien
aujourd'hui
sûr.
un des piliers de ce que vous faites dans vos actions. Mais avant ça, surprise générale, Oui. Vous avez été dans les rangs de Tsahal?
Évidemment, pourquoi pas.
Parce que en plus, aujourd'hui, on s'imagine que...
J'y étais assez tard, d'ailleurs. J'avais 25 ans.
C'est-à-dire que vous étiez marié déjà?
Non, pas encore. C'était un an avant mon mariage. Et bon, j'étudiais à la yeshiva. La yeshiva, ça me fascinait. Et je me disais, tiens, ben, il faudra bien un moment faire l'armée, mais il faut encore que j'acquière de la Torah. Bon, ça a été un peu lent. Finalement, bon, j'étais à Tsahal, j'étais dans l'artillerie. Et donc, j'ai participé à différentes activités après au Milouim, comme tout le monde.
Oui, mais comme tout le monde, malheureusement, non.
Mais bon. Pas, c'est une mitzvah.
C'est une mitzvah, bien sûr.
Oui, donc c'est pour ça que ceux qui étudient la Torah doivent aller à l'armée, tandis que ceux qui n'étudient pas, hein, il vaudrait peut-être mieux qu'ils n'y aillent pas, parce qu'ils risquent de quitter la Torah.
Rav, j'ai une vidéo pour vous qui a fait polémique il y a quelques années en Israël, et c'est en rapport direct avec ce que vous venez de nous dire là.
Michel Zachol a dit à l'idvarim absurdim. למשל, ניקח דוגמה, יש פיגועים. מוריי ורבותיי, צריך להתחזק. במה? בלימוד התורה, בצדקה, בתפילה. שטויות במתקווניות. מה קשור לפיגועים? אם יש פיגועים, צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית, ובהשלטת הריבונות. בזה צריך להתחזק. כן, אתה אומר, אחד כואב לו ברגל, אתה נותן לו כדור לכאב ראש. מה זה קשור אחד לשני?
Vidéo qui a fait l'effet d'une bombe atomique.
Oui, absolument.
Sincèrement, même moi qui ne parlais pas l'hébreu, j'ai ressenti la vague. En France aussi, ça a fait énormément de bruit. Il y a un côté, Arav, cette liberté-là vous permet de dire des choses qui dérangent énormément de gens autour de vous.
Ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'on dise la vérité. Or, comme disait le chanteur, le poète a dit la vérité, il faut donc l'exécuter. Et en fait, c'est toute personne qui a un peu étudié la Torah et qui n'a pas des idées reçues, eh bien, quand il voit la Torah, il voit très bien qu'à chaque fois qu'il y a un ennemi, on combat.
Mais moi, c'est un vrai problème que j'ai, mais sincèrement...
Est-ce que vous avez lu, par exemple, le rouleau d'Esther?
Un petit peu,
je
bien
crois
sûr.
Qu'ils ont fait je crois qu'ils ont fait là-bas la guerre, les Juifs...
Le roi David, etc. Non, mais oui. Moi, j'ai un vrai problème arabe, mais je ne retrouve pas ce problème chez mes rabbins, Baruch HaShem, chez le Rav Yoel, le Rav Fison, etc. C'est que vous savez que c'est Dieu au-dessus de vous. Vous savez que la vérité, ben, à un moment donné, il faut la dire parce qu'il y a un patron dans ce monde et qu'il a marqué dans la Torah, noir sur blanc, que David Améler allait faire la guerre, que machin, que truc. Mais j'ai l'impression que cette vérité que se cachent les autres, c'est qui leur patron? C'est-à-dire, vous, cette liberté-là que vous prenez, pourquoi eux ne la prennent pas?
Pour tout vous dire, j'ai eu des maîtres. Et ces maîtres étaient des maîtres authentiques. C'est-à-dire, je n'ai jamais été tenté par des opinions anti-sionistes ou repliées sur elles-mêmes ou ghettoisantes ou se bastionnisant, etc. Je n'ai jamais été tenté par ça. Et je pense que c'est important, justement, si on a une émouna véritable, qu'il y a un créateur du monde et qu'il a donné sa Torah, il est absolument impossible que cette Torah soit contre le bon sens. Et donc, c'est ça que j'ai pu voir chez mes maîtres. Souvent, on m'a demandé quel est l'apport particulier du judaïsme d'Afrique du Nord au judaïsme. Alors, je réponds toujours que j'ai connu beaucoup de rabbins d'Afrique du Nord, des rabbins d'Algérie, et qu'ils avaient des opinions différentes, mais ils avaient tous un dénominateur commun. Ils étaient tous normaux. Or, s'est développée dans ces dernières générations cette idée que le fait d'être fidèle à la Torah demande d'être anormal, d'avoir une relation compliquée envers le monde matériel, par exemple, envers la vie en général. Alors que la Torah nous dit « tu choisiras la vie ».
Et comment vous l'expliquez ça? Que ces générations ont besoin de ça?
Bon, d'abord, il y a des traumatismes. La laïcité, la chilonout, qui est devenue envahissante dans le dernier siècle, a créé des réactions d'autoprotection, c'est normal. Ça fait partie des traumatismes. Maintenant, on a le droit... Hein, d'avouer sa faiblesse. Dit voilà, je suis faible, j'ai donc besoin de me protéger, je dois rejeter la vie, le monde extérieur, me replier dans mon Beit HaMidrash. On a le droit d'être comme ça. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'imposer sa faiblesse comme étant la norme. Et ça, c'est un des grands drames de notre époque où, finalement, la Torah risque, avec toute l'ampleur de l'étude de la Torah, d'être sans aucune pertinence par rapport au monde. C'est-à-dire comme si le monde s'était détaché de la Torah ou la Torah s'était détachée du monde. Alors que justement, ce que la Torah nous enseigne, c'est que l'histoire des hommes, c'est ça l'histoire d'Israël.
Alors, et en plus de l'histoire d'Israël, il y a l'histoire du monde. C'est là où je veux arriver par rapport au noirisme, au Brit Olam, mais c'est une association que vous avez créée. D'où vous vient cette idée arabe? Alors, au-delà du Rambam qui a parlé du noirisme, mais que tous les grands de cette génération et des autres générations ont lu, à quel moment vous vous êtes dit « ça, c'est mon projet » ?
Il y a eu deux moments, en vérité. Le premier, c'est quand j'ai demandé un jour à Manitou « quelle est la prochaine phase de la Géoula ?» Après réflexion, il m'a dit « la Torah pour les goïms ». Et puis, un jour, dans une réflexion personnelle, je marchais dans la rue, dans mon quartier, et je me dis « mais qu'est-ce qui bloque l'évolution de la Géoula en Israël ?» C'est le conflit gauche-droite. Et je me suis dit « quelle est la caricaturalement l'intuition de chacun de ses côtés ?» C'est que si vous demandez à un homme de droite qui est important dans le monde, il vous dira Israël. Et les goyim, ah non, ça ne nous intéresse pas. Et si vous dites à un homme de gauche qui est important, il vous dira c'est les goyim. Et les juifs, ça ne nous intéresse pas. Et je me suis dit, mais alors, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, pense? Je pense qu'il pense comme Rabbi Yehuda Halevi, qu'il y a un cœur et des organes. Israël est le cœur de l'humanité, il y a les organes qui sont alimentés par ce cœur. Donc c'est ça qui pourra le noachisme, cette doctrine universelle du judaïsme, qui est bien connue dans la littérature hébraïque,
bien sûr.
C'est pas nouveau, c'est pas inventé, c'est ça qui peut réconcilier justement les deux parties de la société israélienne. Je connais des hommes appartenant aussi bien à la droite qu'à la gauche, qui sont fascinés justement par ce projet. C'est là qu'ils se rencontrent. Et donc, sans parler du fait que la Géoula, le fait que Dieu nous a fait sortir de la Galoute après tant de temps, c'est pour que nous retrouvions notre rôle par rapport à l'humanité. Or, c'est pour Abraham, c'est très clair. Tu seras la bénédiction pour toutes les familles de la terre.
Enfin, le principal reproche qu'on vous fait, que moi j'entends par rapport de rabbins qu'on fait par rapport au noirisme, c'est que c'est pas le moment encore. On n'est pas encore prêt à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de fractures internes dans le peuple juif et on n'a pas encore cette parole-là à donner au monde.
Disons comme ça, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les goïms voient. Pour les goïms, nous sommes un événement biblique en pleine modernité. Et ça nous est imposé par la Providence. C'est-à-dire, si au moment de la sortie d'Égypte, quelqu'un dit « bon, la sortie d'Égypte, c'est très important, mais je ne suis pas encore prêt », alors il rate la sortie d'Égypte. C'est comme les gens qui vous disent en France « oui, l'Aliyah, c'est très important, mais il faut être bien préparé ». Ça veut dire « on ne vient pas ». Or, les événements sont plus grands que nous. C'est-à-dire, pour les goyim, le fait que j'ai une kippa ou pas de kippa, que je suis de droite ou de gauche, n'a absolument aucune importance. Ils voient de l'extérieur la lumière divine qui illumine Israël. Et ça nous invite donc à prendre notre responsabilité. C'est en ne prenant pas nos responsabilités que nous sommes petits. Et donc, c'est donc précisément le moment. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que très bientôt, nous allons célébrer le premier congrès international du noachisme en novembre prochain. La cérémonie de clôture se fera chez le président de l'État israélien, Yitzhak Herzog.
C'est le point de départ de quelque chose de nouveau ?
Disons que c'est le passage d'une initiative personnelle, d'un groupe que j'anime, au peuple d'Israël organisé en tant que nation. Le grand rabbin d'Israël aussi viendra.
Ashkenaz ou Sépharad?
Pour l'instant, c'est le Sépharad qui a donné son accord. L'Ashkenaz, je dois le rencontrer la semaine prochaine. Et ça veut dire que c'est le peuple juif qui s'adresse à l'humanité. Nous ne sommes plus dans une situation d'autoprotection, de repli sur nous-mêmes. Nous avons un rôle. Et ce rôle, d'ailleurs, est lié au fait politique, qui est que l'État d'Israël est devenu une puissance ces derniers temps. Avec tout ce que nous avons souffert, finalement, nous sommes devenus un facteur incontournable de la communauté internationale.
Dans 10 ans, alors, comment est-ce que vous voyez le monde avec le noirisme?
Disons que ça sera une des options. C'est-à-dire, le christianisme est en déliquescence. Ce qui se propose à la place, c'est le bouddhisme, fascinant, mais quand même loin de la conscience occidentale. Il vous reste l'islam, qui est très fort, mais qui est agressif. Et donc, finalement, ça laisse la place à la parole d'Israël. C'est là que les nations vont commencer à se dire « mais qu'est-ce qu'Israël a à nous dire ? » Est-ce que ça veut dire qu'ils vont immédiatement adopter le noachisme ? Loin de là. Mais disons, on peut commencer par 1 milliard de personnes seulement.
C'est un bon début. Mais je vous propose, Rav, qu'on refasse un jour un podcast uniquement sur le noirisme, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ici qui connaissent le sujet en grand, dans les grandes règles, les sept lois.
Le sujet a été développé, d'ailleurs, pas seulement par moi-même. Le rabbi de Lubavitch l'a fait, bien sûr. C'est bien connu. Bien avant, il y avait Aimé Pallière. Et puis, vous avez également d'autres initiatives qui existent d'ailleurs de nos jours également. Simplement, ce qu'il y a de particulier dans mon initiative, c'est que nous avons fondé une organisation qui est de notoriété mondiale. Et de ce point de vue-là, c'est très important de regrouper les différentes initiatives.
Et je vais vous réinviter sur ce sujet parce que j'aimerais revenir sur vous et votre vie, parce que c'est pour ça qu'on est là sur ce podcast. Son prénom, c'était Shalom, la paix. Mm-hmm. À la fin de chaque conversation, il disait « Soyez shalom,
you shalom.
Oui. » Parce que moi, je suis déjà shalom. Oui. Je suis déjà en paix. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre...
Disons que, je ne sais pas si tout le monde a compris, que mon fils a été tué dans un attentat à Jérusalem en 2015. C'était le jour de la Shoah, d'ailleurs. Et que... Shalom était un personnage assez particulier. C'était mon deuxième enfant. C'était quelqu'un qui avait le désir de faire du bien à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est dans sa manière, disons, d'aborder les gens, quand il parlait à une personne, cette personne était la seule au monde. À tel point que beaucoup de personnes se sont dit « j'étais son meilleur ami ». Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'oubliait lui-même pour parler de l'autre.
Alors, vous avez créé une association.
Il y a une association qui a été créée, qui s'appelle Heyu Shalom, qui s'occupe justement de rétablir sur le plan économique et psychologique des familles en difficulté.
Moi, j'ai une question, mais j'ai hésité à vous la poser, mais je pense qu'il faut la poser. J'imagine, et je ne sais pas, mais j'imagine que depuis le 7 octobre, énormément de familles endeuillées viennent vous voir pour chercher chez vous ce que eux n'ont pas, cette force-là de Emouna. Mm-hmm. Parce que moi je peux le dire, parce que j'ai pas de truc, moi j'étais là à l'enterrement, j'étais là, et j'ai trouvé chez vous une force, une volonté de nous faire comprendre que ça fait partie de la Géoula, ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre. Comment vous faites? Alors, moi je suis là, je suis devant ça et je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous dites à ces parents-là? Endeuillé.
Écoutez, c'est très simple. Il y a tout d'abord cette idée que souvent les gens disent, quand vous avez passé une expérience douloureuse, est-ce que ça a changé chez vous quelque chose? Je trouve que c'est une question vaseuse, tout simplement parce que si on a une opinion, on a ces opinions même avant les malheurs. C'est-à-dire, nous avons toujours su qu'il y avait des victimes des attentats et on a quand même eu certaines opinions. Donc pourquoi changer d'opinion parce qu'on est soi-même la victime? Ça, c'est le premier point. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que on peut se demander qu'est-ce que la personne que nous avons perdue, est-ce qu'elle voudrait que l'événement nous construise ou nous détruise? Il est évident que si je pouvais demander à Shalom, est-ce que tu veux que ça me construise? Il me dirait, évidemment, c'est ça que je te demande de faire. Ce n'est pas respecter la personne en se laissant effondrer. Mais il y a encore plus profond que ça. S'il y a dans le monde, si on admet qu'il y a une providence, alors tout a un sens, même si ce sens n'est pas clair pour tout le monde.
Mais ça, c'est la réponse du rabbin devant les caméras.
Non, attendez, je veux dire même plus que ça. Nous avons trouvé dans le sac à dos de Shalom, quand il s'est fait tuer, on a retrouvé une feuille de papier, un A4, qu'il a lui-même imprimé, et dans lequel il a écrit... Ani bocher lichyot mitor simcha. Je choisis de vivre dans la joie. C'est un choix. Or, donc ça n'a rien à voir avec ce que le cours du rabbin, ce que le rabbin dit devant la caméra. C'est ce que, disons, la logique interne de l'être humain se voit imposer, d'une certaine manière.
Enfin, j'imagine
quand même. Je ne peux pas vivre autrement.
J'imagine quand même qu'on vous a énormément posé la question, mais je vous la pose quand même.
Oui.
Vous n'avez pas du tout été ébranlé dans votre foi, dans votre sionisme, dans à quoi ça sert tout ça pour ça?
Absolument. Au contraire, je ne vois pas très bien. J'ai dit d'ailleurs lors de l'enterrement, j'ai dit nous ne sommes pas venus pour nous faire tuer, nous sommes venus pour vivre. Ça, c'est vrai. Et c'est donc, si vous voulez, c'est une question qui est posée par rapport au Très-Haut. Mais je ne vois pas en quoi le fait d'avoir été soi-même la victime des événements ferait changer d'opinion par rapport à la nature des événements. Peut-être que c'est anormal, mais je pense que c'est comme ça
que je vis. Face aux images de Simchat Torah du 7 octobre, vous dites que vous dites ne pas vous être brisé, mais j'en ai marre d'avoir raison. La veille, en cours, vous aviez annoncé que ça arriverait à partir du livre de Zacharie.
Oui, dans le chapitre 11, évidemment. Bon, étendez la tension terrible qui était au sein d'Israël, le fait que la fraternité était en danger, c'était très clair dans les discours publics. Alors, j'ai cherché, c'est un verset bien connu dans Zacharie, qu'est-ce qui se passe lorsqu'est brisée la fraternité au sein d'Israël? Le prophète en parle. Il parle d'une guerre au nord, au sud, etc. Et encore beaucoup de détails, d'ailleurs. Et donc, quand ça s'est passé, j'en avais parlé quelques jours avant, la veille, j'en avais parlé. J'étais assez surpris de voir que ça se réalisait immédiatement. Mais,
un début de prophétie, je ne sais pas.
Non, ce n'est pas un début de prophétie, c'est une lecture. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. La Bible a été écrite pour qu'on la lise, et on doit la lire, pas pour perdre son temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même à en retirer, je crois. Oui. Comme disait Manitou, souvent les gens, les sionistes religieux se disent « Ah bon, alors c'est vrai ce en quoi nous croyons
?» Oui. Alors, depuis le 7 octobre, chacun a agi comme il peut. Lui est allé en Miloui, lui fait des manottes pour les soldats, lui chacun fait comme il peut. Vous avez fait quelque chose d'assez un geste, c'est-à-dire que vous êtes allé parler au monde musulman.
Oui, bien sûr.
Vous avez, et là, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui n'ont pas suivi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le début de cette réflexion et ce qui s'est passé?
C'est tout simple, c'est presque un accident. J'avais écrit, déjà il y a 15 ans, un petit recueil,
pamphlet.
Un petit pamphlet que j'ai gardé dans mon ordinateur, qui s'appelait « Qu'est-ce que le judaïsme pense de l'islam ?» Et j'ai hésité, je ne l'ai pas publié, je n'ai pas travaillé tellement là-dessus. Et puis j'ai un conseiller médiatique qui m'a dit « Ah, ça c'est intéressant, publions-le ». Il l'a publié, alors on m'a appelé de Abu Dhabi, de Dubaï, pour que je vienne en parler. C'est comme ça que ça s'est produit. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était au début de la guerre.
Oui, non, mais c'est ça. C'est les.
Oui, et c'est dire que, bon, il faut dire au grand mérite des Émirats Unis, c'est que, avec toutes les vicissitudes militaires que nous avons traversées, ils n'ont jamais rompu les accords d'Abraham, jusqu'à présent. Et je pense que mon discours a été très influent dans les Émirats. On en a beaucoup parlé. J'ai entendu beaucoup de choses sur leur position, dans leur interprétation à eux de l'islam. Et contrairement à ce qu'on veut souvent voir du dialogue interreligieux, interconfessionnel, gentil, conciliant, etc., mais sans parler des fondements théologiques problématiques. Or, ce qui les a conquis, d'une certaine manière, c'est le fait que je suis rentré dans l'intériorité de leur théologie et je leur dis ce qu'ils devaient mettre en évidence.
Mais j'imagine que vous ne l'avez pas fait seul. Moi, je connais votre frère, Eliezer Cherki, qui lui aussi est un spécialiste.
C'est un orientaliste.
Alors, c'est pas quelque chose que vous avez fait en famille, alors?
Non, pas du tout. Après l'avoir écrit, je l'ai soumis à mes amis, à mon frère, à des amis orientalistes que je connais. Chacun a eu sa réaction, mais enfin, j'ai fait avancer ça tout seul.
Et au niveau de l'État, est-ce qu'on vous a contacté?
Bien sûr. Alors j'ai été convoqué, d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères. Ils étaient très intéressés à savoir ce qui s'est passé. J'en ai parlé également très longuement avec le président de l'État Herzog et ses conseillers. À l'époque, il y avait encore évidemment beaucoup de khatoufim, beaucoup d'otages. Et donc, les autorités étaient intéressées à savoir s'il y avait là-bas une ouverture éventuelle. Hélas, non. Et jusqu'à présent, c'est des choses qui sont traitées dans certains milieux gouvernementaux.
On dit dans les rumeurs que vous avez une chavrouta avec Benjamin Netanyahou.
C'est totalement faux.
On est là pour établir la vérité.
Non. J'ai rencontré Netanyahou plusieurs fois, évidemment. Je pense que nous avons une certaine sympathie l'un envers l'autre. Mais non, ça ne va pas plus loin que ça.
Vous avez déjà étudié ensemble, jamais?
Non, jamais, jamais.
Depuis le 7 octobre...
Je lui ai donné une fois un de mes livres, le Sainteté et Nature, en hébreu, Kedusha Veteva. Alors, il a regardé les différents sujets... Et il s'est arrêté, Yetzer Hara, ça je connais, a-t-il dit. Je connais ça dans la politique. Le plus grand Yetzer Hara des politiciens, c'est la jalousie.
Rav, revenons un petit peu à votre famille. Vous êtes marié.
Oui, évidemment,
avec Ronit. Vous avez 7 enfants. qu'espérez-vous avoir transmis à vos enfants au-delà de la Torah ?
D'abord l'humanité et également l'ouverture et l'approche optimiste. Je pense que c'est très important. L'optimisme est fondamental. Et j'espère leur avoir donné une certaine pointe d'idéalisme.
Il y a eu donc Eliezer Cherki, il y a eu Rav Chaim Cherki, il y a eu Rav Uri Cherki. Est-ce qu'on doit s'attendre à un futur Rav Cherki qui sort de votre famille, qui reprend le flambeau?
D'abord, j'ai un neveu qui est Rav Chaim Cherki.
Rav Chaim Cherki, oui.
Ce que chacun va faire, il le fera à sa manière. Je pense qu'ils le font chacun, d'ailleurs, de manière assez... bon, si vous allez me dire, c'est mes enfants, mais de manière assez surprenante. Ils ont un esprit d'entreprise, d'entraide. Et fondamentalement, je pense qu'il leur avoir inculqué la bonté.
Qu'est-ce qu'une vie comme la vôtre vous a appris que les livres ne vous auraient jamais appris?
Je pense que l'expérience personnelle est quelque chose qui ne peut pas être apprise par aucun livre. Or, il y a une question que souvent les jeunes se posent, des jeunes gens disent, voilà, je voudrais bien entamer la vie, mais je veux d'abord me retrouver moi-même. Alors, on va un peu en Inde ou à la yeshiva pour se chercher, pour se retrouver, etc. Mais en fait, il y a ici une sorte d'erreur. C'est vrai qu'il est important parfois de faire une introspection, mais en vérité, c'est la vie qui nous apprend qui nous sommes. C'est-à-dire que je peux savoir pourquoi je suis arrivé dans ce monde. Je pense qu'à partir de l'âge de 93 ans, on peut commencer à le savoir. Mais parfois, dans des cas extrêmement précoces, à 85 ans, déjà, on commence à comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se retirer de l'histoire. Il faut y entrer. Comme dit la Torah, « Vacharta b'chaim, tu choisiras quand tu es vivant. »
Moi, j'ai compris, vous êtes très optimiste. Mais...
Je n'ai pas le choix. C'est une maladie chronique.
C'est une maladie chronique. Oui. Mais est-ce que vous êtes heureux?
Non, absolument pas. Je ne suis pas heureux. Je suis heureux d'être ce que je suis. Je ne suis pas heureux de l'état du monde. Je pense qu'on ne peut pas être heureux quand on voit l'état du monde. Mais
pourquoi ça?
Vous avez qu'à regarder les journaux.
Hein. Moi, je suis vos cours. Vous avez parlé il y a 2 semaines du Rav Kook qui était à l'entrée de Jérusalem et qui dit, tu vois, cette colline là-bas, c'est là-bas où on sacrifiait des jeunes enfants.
Oui, évidemment.
Le monde va mieux que...
Attendez. Ce que dit le Rav Kook, d'ailleurs, c'est intéressant. Il dit que c'est un bonheur de savoir que nous vivons dans un monde qui va vers le bien.
Ah.
C'est-à-dire, le Rav Kook dit, même si on ne sait pas si soi-même on y participera. Mais le fait de savoir que le monde vaut la peine d'être créé, c'est cela l'origine du bonheur. Donc, vous me demandez si je suis heureux, je suis heureux intellectuellement. Je ne suis pas heureux existentiellement de l'état du monde. Je pense que c'est la moindre des exigences morales.
Est-ce qu'il y a un geste, une parole du Rav Zvi Kook qui vous vient à l'esprit, qui vous amène jusqu'à aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Le Rav Zvi Kook disait... Ani ha'emshech ha'absoluti shel Abba. Je suis la continuation absolue de mon père. Et ça, j'ai trouvé que c'était très fort. Parce que ça veut dire qu'il faut également baser sa vie sur certaines certitudes. D'ailleurs, il disait, il y a des tzadikim qui ont la foi et des tzadikim qui ne l'ont pas. Et alors, un de mes amis est allé voir le Rav Tzioda, il lui a dit, mais qui peut décider qui sont ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas? Le Rav Tzioda a frappé sur la table, il a dit, moi je le peux. D'accord. Et ça, c'est important d'avoir une opinion. Souvent, les gens me disent, mais est-ce que tu penses que c'est toi seulement qui as raison et que les autres ont tort? Et je réponds, mais c'est ce que pense toute personne qui a une opinion.
Et voilà, exactement. Mais moi, je dis ça à ma femme aussi et elle n'est pas d'accord. Hein. Mais c'est un autre sujet. Mais les droits d'achat, il y a aussi une autre institution.
Si tu veux un conseiller conjugal.
Je veux. Mais on vous refera aussi pour les droits d'achat. Il y a une autre institution qui aujourd'hui est très présente dans votre vie parce que c'est là-bas que vous avez donné la majorité de vos cours. C'est aussi une suite du Rav Zvi Kook, c'est le Machon Meir. Oui. Vous avez donné là-bas des milliers de cours. Vous avez été le rabbin de la Mahlaka israélienne, de la section israélienne. Pourquoi le Machon Meir?
Le Machon Meir me permet de récolter des expériences de vie en un quart d'heure. C'est-à-dire, une personne qui a passé 15 ans à chercher par-ci, par-là, des philosophies, des mystiques, etc. Et puis, il vient me raconter son histoire. Et ça lui prend un quart d'heure. Mais dans ce quart d'heure, je me suis enrichi d'une vie que j'aurais, qui m'aurait pris beaucoup de temps. Et j'en rencontre beaucoup des comme ça. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est, vous rencontrez une variété de personnes, c'est merveilleux. Hélas, souvent, ce sont des gens qui viennent avec un arrière-plan religieux. Par contre, quand j'ai enseigné à Tel Aviv, à Rosh Yehudi, c'était la plupart étaient des gens avec un arrière-plan chiloni, donc laïque. Et ça, c'était très intéressant parce que les questions qu'ils posaient étaient absolument inattendues. Tandis que quand je donne des cours à des religieux, je sais déjà les questions qu'ils vont poser.
C'est ennuyeux, vous vous ennuyez un petit peu quand vous posez des cours à des religieux, entre guillemets ?
Bon, disons que c'est assez amusant quand même.
Et moi, j'ai une question pour vous, mais vous allez m'en vouloir, Rav.
Bien sûr.
Vous savez tout mon amour que j'ai pour vous. Pourquoi vous faites, en tout cas en français, les mêmes séries de cours tous les ans ? Il y a 22 séries sur la Tefila, il y a 22 séries sur Bereshit. Pourquoi vous n'êtes pas passé à Bamidbar ? Le prochain livre. Non, vous avez fait Bereshit tous les ans depuis 20 ans.
Ah, parce que c'est le fondement de l'identité d'Israël. Manitou appelait ça les toladotes, les engendrements de l'identité d'Israël. Et ça, c'est très important de savoir qui nous sommes. La Torah nous dit souvent ce qu'un juif doit faire, mais la Torah très rarement nous dit qu'est-ce que c'est qu'un juif. Et pour le comprendre, il faut le livre de Bereshit, évidemment. Mais je dis toujours qu'il y a des maîtres qui sont des maîtres de commencement, d'ouverture. Il y a ceux qui vous suivent tout le long de votre trajet et ceux qui achèvent. Moi, je suis de la première catégorie, de ceux qui ouvrent. Il est plus important pour moi d'ouvrir une fenêtre que de rentrer dans le détail de ce qu'on y voit.
Vous avez construit énormément. Vous avez aussi une communauté, Beit Yehuda, Brit Olam, des milliers de cours. Quand vous regardez tout ça...
Livres aussi.
Et vous avez aussi énormément de livres, bien sûr. Ourim, bien sûr.
Une vingtaine de livres, oui.
Qui sont juste derrière vous. Bon, beaucoup en hébreu, pas beaucoup en français, mais Bezrat Hashem. Oui. Vous êtes fier de vous ?
Oui, je pense qu'il est bon toujours d'avoir un œil positif sur ce qu'on a fait. Vous savez, il y a dans la liturgie de Kippour, il y a le vidouille. Et le vidouille, c'est quand on dit, quand on confesse ses défauts. C'est là que je suis pas bien, là et là et là et là. Mais il y a un autre vidouille qu'on trouve dans la Torah, le vidouille Maasrot. C'est quand on a fini de distribuer la dîme et tous les dons qu'on doit faire. Alors on doit, c'est une mitzvah dans la Torah, de se présenter devant Dieu et de dire « j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire ». C'est-à-dire, il y a également le vidouille positif, avoir une bonne opinion de soi-même, c'est très important.
J'imagine qu'il y a quand même un prix physique et mental à toutes ces...
Quand vous faites quelque chose, vous payez toujours le prix. Quand vous devez choisir entre deux options, vous perdez l'autre option, c'est tout à fait normal.
Et pour votre famille, c'est pas trop dur ?
Non, pas du tout. Ma famille est très satisfaite. Nous nous retrouvons souvent dans des réunions familiales de toutes sortes. Chacun vient avec son expérience. Et nous avons tous des espoirs, des expectatives. Il y a des naissances, il y a ceux qui ne sont pas encore mariés mais qui le seront, etc.
Mais il y a eu quand même des moments de doute dans la façon de faire, dans la façon d'enseigner, dans la façon de...
Oui, évidemment, ça m'a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que je décide quel serait le style de mon discours. Ça n'a pas été facile. Je suis arrivé à une conclusion très claire à un moment, c'est qu'il faut parler le langage laïque, le langage chiloni, parce que c'est ça qui me prouve que j'ai compris ce que je dis.
Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à un moins jeune qui veut commencer à enseigner, qui veut commencer à transmettre toute cette Torah-là ?
D'abord qu'il ait des bonnes opinions.
Ça veut dire des bonnes opinions ?
Ça veut dire qu'il soit sioniste.
Ah, okay.
Oui. Et qu'il ne se serve pas de la Torah pour son profit personnel. Quand on me demande est-ce qu'il faut aller voir tel kabbaliste, je dis à deux conditions. D'abord qu'il ne prenne pas d'argent et qu'il soit sioniste. D'accord ? Si c'est comme ça, ça va. Il est important d'avoir donc des bonnes lectures. Je recommande, par exemple, ceux qui parlent le français, de s'imprégner un peu du livre d'Abraham Livni.
Il est derrière vous.
Oui,
si vous voulez le prendre, Rav, il est juste là derrière vous, Le Retour d'Israël, en noir.
En noir, oui, voilà, c'est ça.
Exactement.
Ce livre-là est réédité d'ailleurs aux éditions.
Oui, bien sûr.
Oui, Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde, qui est à mon avis un livre fondamental. D'ailleurs, je l'ai traduit en hébreu.
Oui.
Et il a été traduit également en anglais, et j'espère qu'il sera traduit dans toutes les langues
du monde. En espagnol, il est fini en espagnol.
En espagnol, il va sortir également en russe à un moment.
Oui, je sais pas, mais en espagnol, il va sortir dans les prochaines semaines.
C'est très important parce que c'est ça qui nous fait comprendre la nature de notre époque. La vérité, c'est que ce livre a été écrit à une certaine époque. On sent qu'il a un petit peu vieilli. Il correspond à un certain schéma de la politique de l'époque, mais ce qu'il dit est fondamentalement potable. Oui.
On reste quand même dans Rode Kélim, Arav, et nous, on a un rapport à la Kabbalah avec le Rav Yoel Ben Arouche. Est-ce que vous avez un rapport à la Kabbalah qui est différent? Ça veut dire, pas différent de Rode Kélim, mais est-ce que vous... plus simple, quel est votre rapport avec la Kabbalah et le monde de la Kabbalah aujourd'hui?
La Kabbalah, c'est l'âme de la Torah. C'est ce qui est resté en nous des temps prophétiques. L'intuition prophétique a été traduite finalement en une sorte de sagesse, et elle est une des étapes nécessaires pour retrouver ce qu'on appelle la civilisation prophétique. Et donc, c'est très important. Il y a toujours un risque que ça devienne de la mystique ou de la magie ou simplement une acrobatie littéraire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut comprendre que la Kabbale nous donne des réponses aux grandes interrogations de la vie intérieure.
Et tous les rabbins kabbalistes, je ne vais pas les citer exprès parce qu'il n'y a pas besoin, mais qui viennent au nom de la Kabbalah donner des brachot et des choses comme ça, vous y croyez?
Je crois que ça leur donne une bonne parnassa, effectivement. Vous savez que quand quelqu'un vous vend un fil rouge et qu'il dit que c'est une zgoula, que c'est une, ça amène la parnassa, il ne ment pas, ça amène à celui qui vous vend le fil rouge.
Et on l'achète quand même. Et ça, c'est beau. Rav, il y a aussi un autre débat qui a fait fureur dans les réseaux francophones. C'est votre débat avec Finkielkraut, qui a eu lieu dans la chaîne de Mosaïque. En public, dire que le 7 octobre relevait du miracle et de la main de Dieu.
Il m'a attribué des paroles que je n'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai donné une réaction, oui. Une réaction droit de réponse, dans laquelle j'ai mis les choses au point. C'est-à-dire que ce que Alain Finkielkraut m'a imputé, c'est cette idée que finalement, l'histoire du 7 octobre est un événement merveilleux, puisqu'il permet justement de chasser les goyims de la Terre Sainte. Bon, alors, c'est n'importe quoi. Je pense que toute personne un peu sensée comprend très bien la gravité de la tragédie. Nous connaissons tous, plus directement ou indirectement, les retombées de cet événement tragique. Maintenant, le fait qu'un événement tragique puisse servir, puisse être réutilisé pour en faire du bien, pas de problème. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que l'État d'Israël, c'est merveilleux qu'il y ait eu la Shoah puisqu'il y a eu l'État d'Israël? On ne peut pas dire des choses pareilles.
C'est faux.
Donc, mais en fait, tout cela relève d'une certaine perte de l'objectivité et de l'acquisition de tous les poncifs diffusés aujourd'hui à un niveau international de manière absolument effrayante. On voit d'ailleurs l'accusation de génocide. Bon, que Finkielkraut, il faut dire la vérité, rejette. Hein. Mais l'accusation de génocide, elle est caractéristique de quelque chose qui se passe dans la civilisation. C'est-à-dire, pour se dédouaner de la Shoah, il faut que les victimes du génocide soient eux-mêmes des génocidaires. Et c'est ça que Finkielkraut aurait dû comprendre. Or, il ne l'a pas compris. Il s'est laissé emporter par un gauchisme primaire qui est navrant pour un intellectuel de son niveau.
Alors, en parlant de gauchisme, oui. J'ai découvert en préparant ce podcast-là, quelque chose que je n'ai pas entendu parler, peut-être que je ne vous suis pas suffisamment sur les réseaux, Arivon Arevi,
oui.
Vous avez attaqué publiquement ce mouvement, la gauche déguisée avec un sourire, puis vous êtes rétracté après avoir rencontré son fondateur.
Non, je ne suis pas rétracté, j'ai simplement supprimé le titre. Le titre, parce que ce qui a choqué son fondateur, c'est que ça semblait lui imputer une motivation basse. Or, il dit non, je fais ça à l'échem shamaïm, je fais ça de manière idéale, idéaliste. Et ça, j'ai bien voulu dire, d'accord, j'ai dit leurs motivations sont idéalistes. Non. Mais est-ce que je reviens sur mon jugement sur la nature de ce mouvement? Non, je ne reviens pas.
Ok, mais c'est une autre question à la nature de ce mouvement. Moi, la question, c'est vraiment, c'est vous acceptez de vous tromper? Vous dites, je me suis trompé, j'ai changé ce titre parce qu'il n'était pas...
C'est parce que ça l'a choqué. Le titre n'est pas totalement... je pense à qu'il soit faux, mais il est peut-être mal placé par rapport à la personne en question. Et donc, j'ai accepté de retirer ce titre, c'est tout. Mais est-ce que j'accepte de me tromper? Elle est vachement bonne, cette question. Alors, est-ce que vous prenez pour un dieu? Oui, non.
Ça dépend face à qui. Rav, il y a une autre. Marloquette, un grand débat qui s'est fait par rapport à vous. Vous avez refusé de signer avec les autres rabbins l'engagement des Haridim à l'armée.
Je refuse d'entrer dans la polémique pour une raison très simple. C'est que cette polémique est politisée. On peut avoir l'opinion qu'on a sur le devoir d'aller à l'armée ou de ne pas y aller, etc. Mais aujourd'hui, c'est utilisé de manière manipulative dans une option anti-gouvernementale. C'est pour faire tomber Netanyahou. Et je ne joue pas ces jeux-là.
Oui, mais... Parce que nous, on suit, vous connaissez le Face à l'actu avec le Rav Ethan Fizon, on parle toutes les semaines d'actualité et de choses, etc. Oui. Et à un moment donné, on a parlé du Rav Arashi, l'ancien Sfaradi.
Rav Yitzhak Yosef, oui.
Disons, qui a dit que il fallait mieux pas aller à l'armée, etc. Beaucoup de choses. Et la réponse du Rav Fizon, ça a été, mais dit au Rav Cherki de lui dire quelque chose, parce que faut les rabbins, à un moment donné, à ce niveau-là, il faut qu'ils se répondent entre eux. Parce que c'est pas à nous, petits.
Mais attendez, cette réaction du Rishon LeZion était absolument imbuvable. D'ailleurs, il s'est puni lui-même. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin qu'on réagisse. La réaction de la société a été telle que ça l'a marginalisé immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'enfoncer des clous.
Mais vous prenez part au débat israélien quand même, à la politique israélienne. Vous essayez d'influencer?
Absolument. Je pense que ma place n'est pas celle d'être un homme politique. Je n'ai pas du tout l'aptitude nécessaire pour ça.
Quelle est l'aptitude nécessaire?
Il faut savoir pousser les coudes. Et ça, c'est très difficile de rentrer dans des rivalités de partis, etc. C'est très difficile. Mais je pense qu'il y a la politique avec un grand P. Et ça, c'est très important de donner une direction aux opinions en Israël. J'ai même tenté à un moment de faire un comité qui réunirait plusieurs personnes influentes en Israël de tous les bords pour fonder une nouvelle constitution. Bon, pour des raisons techniques, ça n'a pas marché, mais je pense qu'il est important que des hommes politiques prennent conseil avec des autorités spirituelles. Personnellement, je suis fier d'avoir des contacts de ce genre avec différents personnages dans la scène politique en Israël.
Si Manitou vous voyez aujourd'hui ou le Rav Yehuda Cook, qu'est-ce qu'il vous dirait?
Ah ben, j'espère qu'il serait content.
Les autres, Hachem. Rav Cherki, merci beaucoup. On n'a eu qu'une heure, mais bon, Hachem, on l'a bien rempli. Merci beaucoup, Rav. Merci à tous les spectateurs d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à commenter. Si vous avez une question pour Rav Cherki, mettez-le en commentaire. Au prochain rendez-vous, Bezrat Hachem, on réinvitera le Rav et on passera sur les commentaires. Merci beaucoup, Rav.
Merci, shalom, shalom.